La première étant une citation d'Emmanuel, les coquelicots. D'où l'inanité de se poser des questions sur « je » ou « moi ». Se demander « quand je dis « moi », qu'est-ce que j'entends par là ?» c'est chercher à expliquer l'inexplicable. Je fais de moi un objet de réflexion à la troisième personne, ce que soulignent encore davantage des formulations particulièrement aberrantes telles que « le moi », « le je ». Je pose une question philosophique, philosophiquement insoluble. La deuxième citation montre une flèche. Il s'agit d'une citation de Ludwig Wittgenstein. Il y a une flèche. La flèche montre seulement dans l'application que l'être humain en fait. Se montrer n'est pas un abracadabra que seule l'âme pourrait exécuter. Pourquoi rapprocher ces deux propositions ? La première phrase n'est pas emblématique du style, des dispositifs poétiques ou des convictions intimes d'Emmanuel Occart, mais elle donne un assez bon aperçu de sa méthode d'investigation et des raisonnements concrets, précis, qu'il se tient devant nous lorsqu'il place sous observation des faits, des souvenirs, des anecdotes ou des propositions et des jeux de langage. Son mode opératoire n'est ni dissimulé ni opaque, et la théâtralité de l'opération ressemble tout au plus à quelques tréteaux dressés en plein air autour d'une scène réduite, dépourvue de cintres et d'orgues à lumière, et où circulent librement les comédiens et le vent, peut-être celui de l'Atlantique. Quoi qu'il en soit, c'est de mon point de vue ce qui le distingue de plusieurs de ses contemporains, dont il peut par ailleurs être ou se sentir proche. L'un des aspects remarquables de cette expérience de poésie, une expérience à laquelle j'attache, et je parle ainsi en mon nom, une importance de tout premier ordre dans mon existence, est de se montrer capable, c'est-à-dire réussir à, et de tenter incessamment de montrer, presque simultanément, dans une même séquence ou à distance proche, chacune et donc toutes les configurations possibles observables à l'œil nu, étant entendu que ce dernier n'est pas un outil infaillible. Mieux qu'un théâtre en plein air, l'image qui me vient à l'esprit est voisine du spectacle que je découvris chez Emmanuel à Bordeaux, lorsque, entrant dans son bureau, j'aperçus soudainement, posé au sommet d'un meuble administratif en métal, un dispositif, un prototype, en tous les cas, un modèle réduit de l'épisode des tessons de Montalban, disposé à l'observation comme en sciences naturelles, sous toutes ses faces, exception faite de celles tenant lieu de sol et de socle. Un spectacle minimaliste, certes, mais cependant effectif et pour moi alors pleinement didactique. L'une des caractéristiques principales des enquêtes de langage auxquelles se livre Emmanuel Occart est la constance ou l'insistance avec laquelle il revient sur l'opposition entre les règles et les conventions d'une part et la découverte ou l'invention d'organisations de langage alternatives fondées soit sur une perception et un usage personnel, soit sur une conception et une pratique communautaire ou géographique. Dans tous les cas, il s'agit d'une expression minoritaire, insulaire, ou singulière, voire idiote, dont l'étrangeté, l'absurdité ou le trait énigmatique étonne, éclaire, provoquant parfois aussi un rire libérateur, une sorte de koan apte à détruire ou pulvériser l'ordre établi. »